De retour au Pierre Papineau, Robin Philpeau au micro, Marilyn Marcille qui a la mise en onde. Si vous, jamais vous voulez nous joindre et nous si vous avez des suggestions d'émissions, vous pouvez m'écrire à robin.philpeau, robin.philpeau, P-H-I-L-P-O-T, @videotron.ca. Et on aime bien recevoir des commentaires et des suggestions à cette émission-là. C'est cette émission qui se veut la politique et la culture québécoise et internationale. Et on est le pied à Papineau. On a besoin de la tête pour décortiquer l'actualité, mais le pied pour aller de l'avant. Il y a 50 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, 50 ans cette année, on a eu la grande visite au Québec. C'était Charles de Gaulle. Et pour en parler, on va recevoir Guy Boutier, qui est ami, professeur honoraire à l'Université de Montréal, et quelqu'un qui s'est consacré cette année à faire rappeler ces événements-là. Bonjour Guy.
Bonjour Robin, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette demande d'entrevue.
Ben, merci de m'avoir invité.
Ah, ben, c'est bon, ça. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi l'anniversaire du décès de Charles de Gaulle.
Du général.
Comment?
Aujourd'hui, c'est le 22 novembre, c'est la date de la naissance de Charles de Gaulle. Il est né en 1890.
Uh-huh.
Il aurait donc, bouge pas, 127 ans.
Uh-huh.
Il est né dans le nord de la France, à Lille.
Ah oui.
Et voilà.
Voilà. Mais il est d'abord, je puise une de mes questions d'un dossier particulier fait sur De Gaulle et le Québec dans l'Action nationale. Alors, je invite les gens de se procurer ce texte-là et de ce dossier-là sur le site de l'Action nationale. Mais aussi l'article en particulier de Guy Boutier qui a un peu réuni les gens pour marquer cette visite. Guy, rappelez-nous ce d'abord pourquoi on se rappelle de Gaulle maintenant, parce que il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes qui s'en souviennent plus de ça, mais ils ont entendu vaguement parler. Alors qu'est-ce qu'il a fait en 67, puis après ça on va revenir en arrière pour voir d'où ça vient.
Oui, ben qu'est-ce que De Gaulle a fait en 67? D'abord, une première remarque là-dessus.
Mm-hmm.
On parle toujours de De Gaulle en 67, et c'est vrai, car c'est là où ça a été le plus spectaculaire, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Mais il était déjà venu ici, au Québec, deux fois.
Uh-huh.
Une fois en 1944,
mm-hmm.
et une fois en 1960. Et tout ça étant en 44 et en 60, dans le cadre d'un voyage qu'il faisait en Amérique du Nord, mmh. aux États-Unis et au Canada anglais. Mais il tenait à venir chez nous, et il est venu, et il a dit des choses importantes en 44, qui concernaient évidemment, en ce moment-là, on comprend pourquoi, d'abord la guerre qui continuait, qui n'était pas encore terminée, et en 60... qui venait parler de, qui venait ici, là aussi dans le cadre de des relations internationales. Il était, disons, c'était en 60, c'était un moment assez intense de rivalité de la guerre froide entre mm-hmm. évidemment les Russes et les Américains. Et il faut peut-être se rappeler que en 60, au mois de mai 60, il avait été prévu ce qu'on appelait à l'époque une conférence au sommet
mm-hmm.
des quatre grands.
Ouais.
Les quatre grands, ça voulait dire là, l'Union soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne et puis la France. Et sauf, il n'y en a pas eu beaucoup de ces conférences-là au sommet, mais il devait en avoir une au mois de mai 60.
Mm-hmm.
Et pour préparer l'accueil que De Gaulle allait faire à Khrouchtchev, à l'époque c'était Khrouchtchev, pour se préparer à ça, il a fait une espèce de tournée, appelons ça une tournée des capitales des peuples libres. Mm-hmm. Alors, il était allé quelques semaines avant, il était allé en Angleterre, ensuite il est passé au Canada, et enfin il est allé à Washington. Mais ce qui était intéressant, mm-hmm. c'est que, il disait, dans son voyage au Canada, c'était normal qu'il... puisqu'il était question de paix et de guerre, et de menaces de guerre, c'était normal qu'il aille dans les capitales, ce qu'il a fait, évidemment, mm-hmm. à Londres, à Ottawa et à Washington. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est ça n'a pas été beaucoup souligné, me semble-t-il, c'est qu'il a insisté, c'est-à-dire il a décidé et il a obtenu, que s'il venait au Canada, il irait aussi à Québec, il viendrait aussi à Québec, mmh. et nous parler de nous dans notre place dans le monde, en tous les cas en Amérique du Nord, et dans notre place de peuple du monde libre,
ouais.
dans la discussion relativement qui se déroulait en ce moment-là entre ce qu'il était convenu d'appeler l'Occident, le peuple, mm-hmm. les peuples libres, et les peuples moins libres mm-hmm. du côté de l'Union soviétique. Alors donc, il vient ici, et puis, dès 1960, il dit des choses assez précises concernant le Canada français. Il ne parle pas encore vraiment du Québec.
Ouais.
D'ailleurs, je peux dire, moi, j'ai l'âge de pouvoir en témoigner personnellement. À l'époque, on ne parlait pas du Québec.
Non.
On parlait du Canada français,
ouais.
des Canadiens français. On disait du Québec, de la ville de Québec, quelle était la capitale du Canada français, etc.
Ouais.
Et le discours qu'il fait, et il en a fait trois à Québec, un très important à l'Université Laval,
mm-hmm.
et un autre plus important encore peut-être au Château Frontenac, comme il en fera un aussi en 1967. Et ce discours-là s'adresse aux Canadiens français, puis il nous dit, vous savez, vous êtes important
mm-hmm.
pour le Canada, vous, peuple canadien français, vous êtes important pour le Canada français,
mm-hmm.
pour le Canada tout court, vous êtes important pour la France, bon, mais vous êtes important aussi pour le monde.
Mm-hmm.
Et il est important qu'il y ait un pays de votre langue, de votre culture, de votre mentalité installé ici au cœur de l'Amérique du Nord.
Ah ouais.
C'est déjà nous reconnaître une identité, une ouais. présence, une existence et aussi une importance. Une importance dans le concert des nations. On est toujours habitué, nous, à ne nous comparer qu'au Canada ou à ne nous voir que par rapport au Canada en disant, voilà, nous avons une place, nous sommes un faisceau de diversité à l'intérieur du Canada.
Oui.
Et lui, il nous dit non, il dit, vous êtes beaucoup plus que ça.
Oui.
Vous êtes un élément de la diversité ici en Amérique du Nord.
Oui. Guy, là, on parle de 1960, mais l'Algérie joue oui. un rôle important. On a toujours dit que l'Algérie avait joué un rôle important dans le mouvement indépendantiste. Mais l'Algérie, pour le Québec, est important. Et de Gaulle devient une sorte d'entremetteur de ce lien Algérie-Québec. Pourriez-vous nous parler de comment il a commencé à aborder ces questions-là en 59, 60, quand il était à Washington? Quel est le lien?
Quand il vient en Amérique,
ouais.
Il l'a fait d'abord à Ottawa devant les hommes politiques, devant un parterre d'hommes politiques. À l'époque, c'était John Diefenbaker qui était premier ministre.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, il ira le faire aux États-Unis, d'abord au Congrès, ça c'est évidemment très très important, mais il l'a fait aussi à New York, il avait été invité par le maire de la ville de New York, Robert Wagner qui s'appelait mm-hmm. à l'époque, et aussi il est allé le dire à San Francisco, et partout c'était la même chose, tous les peuples ont droit à être eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'adresse à tous les peuples, partout et toujours.
Oui, et puis...
Et c'est un facteur, je pense qu'il faut ajouter mm-hmm. ceci, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une condition de l'ordre mondial
mm-hmm.
et une condition pour que la paix règne dans le monde.
Wow.
Ça, et je trouve que c'est important qu'il nous l'ait dit ici, et qu'il l'ait dit en Amérique du Nord. Et ben voilà, moi je trouve que quand il nous dit, en 60, quand il nous dit, vous êtes important pour le monde, mm-hmm. et qu'il dit à Washington, tous les peuples doivent disposer d'eux-mêmes, c'est une condition pour que le monde aille bien, aille mieux, et ben je trouve que déjà, il nous voit comme peuple distinct, ça c'est mm-hmm. évident, mais un peuple distinct qui a droit à disposer de lui-même. Il ne le dit pas pour le Québec, hein. Ouais. Vous le verrez pas en 60. Ça, on va l'entendre évidemment et très fortement en 67 et par la suite.
Mais Guy, je voulais juste que tu expliques un peu parce que il revient au pouvoir en 58. Il a la guerre en Algérie, la guerre de libération de l'Algérie, et il fait il est conséquent dans ce qu'il fait. Alors, il décide en 59 comment il va régler ça, cette question-là.
Et c'est vrai. Et il n'aurait pas eu aucune crédibilité de venir ici parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en 60, comme il l'a fait, si d'abord, en 1959, c'est en 59 qu'il l'a fait, le 16 septembre 59, mm-hmm. il fait une conférence de presse à Paris, et il dit, parce que là c'est la guerre, hein, il avait été ramené au pouvoir, rappelons-nous, il avait été rappelé au pouvoir en 58, j'allais dire, par la population européenne d'Algérie, mm-hmm. pour continuer la guerre, ça voulait dire, aux yeux des Français européens d'Algérie, ça voulait dire continuer à garder l'Algérie dans le giron de la France. Mmh. C'est là-dessus qu'il a été propulsé vers le pouvoir. Et voici qu'un an après, on a compris que la règle importante dans notre monde et dans l'histoire peut-être de l'humanité, c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il dit, bon, ben l'Algérie, là, la question de l'Algérie qui nous trouble tant et qui nous fait tant de mal, eh ben nous allons la régler à partir du principe du droit des peuples à l'autodétermination. Mais donc il ouvre la voie à ce qui va devenir l'indépendance de l'Algérie en juillet 62.
Oui, mais Guy, si je me trompe pas, en fait, c'est tout à fait logique avec son rôle de libérateur de la France et de la création de l'ordre mondial qui découle de la Seconde Guerre mondiale. Et si je me trompe pas, c'est en fait cette question du droit des peuples à disposer d'elles-mêmes et de leur souveraineté est fondamentale à la paix. Et donc sa progression vers l'Algérie, ensuite son discours à Washington, puis ensuite par rapport au Québec, est-ce qu'il y a un suivi là-dessus?
Oui, et sa grande crainte, c'est de voir que ce qu'il appelle dans son langage, les deux nations mastodontes, mm-hmm. que sont l'Union soviétique et les États-Unis, que les deux hégémonies, il les appelle aussi comme ça parfois, que les deux hégémonies s'affrontent et amènent tous les peuples dans leur croisade de l'un contre l'autre. Mmh. Et son travail, effectivement, ça vaut pour la France d'abord, et la France elle-même doit retrouver et a retrouvé, effectivement, d'abord en 44-45 et puis ensuite en 58. Ça s'exprime différemment. Ses rapports avec lui, ce qu'il veut, au fond, les deux hégémonies, bien sûr, qu'il sait qu'il y a l'Union soviétique et qu'il faut savoir se défendre contre l'Union soviétique, mais il sait aussi qu'il y a les États-Unis.
Mmh.
Il a beaucoup à faire. Une bonne partie de ce qu'il fera, c'est de prendre ses distances, d'amener la France à prendre ses distances, à retrouver sa souveraineté, pour reprendre le vocabulaire que tu viens d'employer, mmh. à retrouver sa souveraineté à l'intérieur du monde occidental face aux États-Unis. Et ça s'est exprimé de façon éclatante. Ça, c'était en 66, quand il annonce au monde, qu'il va retirer les instruments militaires, c'est-à-dire les soldats, les marins, les aviateurs de la France, du commandement uni de ce qu'on appelle l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Amérique du Nord, parce que c'est une institution dominée de façon écrasante par le mastodonte, je vais employer son vocabulaire, par le mastodonte américain, et nous voulons retrouver notre marge de manœuvre.
Ouais.
Et pour pouvoir dire ça, et pour pouvoir être crédible en 66, il a fallu que d'abord, il se donne un instrument militaire lui-même, et il l'a fait en 60, c'était en février 1960, qu'il dote la France de la bombe atomique.
Oui, et là, tout le monde s'excite par le chef de la Corée du Nord, parce que lui, il veut avoir son indépendance aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Je rappelle, on parle avec Guy Boutier, qui a réuni avec d'autres dans l'édition de juin et juillet de l'Action nationale un dossier fort intéressant. J'ai appris énormément de choses sur De Gaulle, son histoire et sur le Québec. Et en particulier l'article de Guy Boutier. Dans l'article, tu démontres que c'est pas un cheveu sur la soupe en 67.
Oui.
Mais tu relèves des paroles de Jean Drapeau, le maire Jean Drapeau, qui a laissé son nom, que les jeunes connaissent peut-être par le parc Jean Drapeau ou quoi d'autre, mais tu as relevé des propos de Drapeau qui nous surprend aujourd'hui.
Oui.
On n'a pas retenu ça de Jean Drapeau.
C'est-à-dire que par rapport à De Gaulle, tout ce que l'on a retenu de Drapeau, c'est qu'il a eu l'air de prendre ses distances, et il les a pris d'une certaine façon, mais de façon limitée, par rapport à De Gaulle, après que De Gaulle eut crié « Vive le Québec libre ». Mais il faut savoir que cette idée de Québec libre, quand on regarde ce qui s'est dit et ce qui s'est écrit au Québec avant De Gaulle, Jean Drapeau himself est un des premiers à avoir chanté la beauté du Québec libre. Je vais vous donner une citation qui est de 1959. De son livre, Jean Drapeau, qui est Drapeau à ce moment-là, il avait été maire. Là, il était disons en congé politique, et il se préparait à redevenir maire en 1960. Pour se préparer à ça, il écrit un livre qu'il appelle « Jean Drapeau vous parle ». Et qu'est-ce que l'on trouve vers la fin de ce livre-là, un peu en quelque sorte en apothéose? Ah, tous les hommes qui ont gardé le goût de la vérité et la foi en un Québec libre et rayonnant, la foi en un Québec libre, le grand combat, c'est Drapeau qui parle en termes de combat, le grand combat que nous avons à mener passe par la double voie de l'indépendance économique et politique.
Ah oui. Ah,
ça, oui. C'est pas Pierre Bourgault, là.
Non,
c'est André d'Allemagne. Ouais. C'est Jean Drapeau. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, au fond, d'une certaine façon, De Gaulle n'a rien dit en 67. Les mots qui ont... Que certains adversaires lui ont reproché, comme Québec libre, comme ce soir je me sentais dans une atmosphère du même genre que la libération, et puis je ne sais plus quel autre, mais enfin ces deux mots-là, ils sont dans le vocabulaire, dans le discours, devrais-je dire, dans le discours politique des Québécois, des Canadiens français, des Jean Drapeau, des Daniel Johnson. Daniel Johnson est chef d'un parti qui s'appelle l'Union nationale à ce moment-là. Et l'Union nationale a un organe de combat, son propre journal, qui s'appelle Notre Temps. Et si on regarde la première page de ce journal, Notre Temps, dans les années 63-64, qu'est-ce qu'on voit? On voit le titre Notre-Dame, Notre Temps, et en dessous, un parti libre... pour un Québec libre. Et De Gaulle sait ça. De Gaulle est bien informé, il s'intéresse. Ouais. Et il a évidemment un ambassadeur, il a un consul, et il a aussi plein de gens qui je vais dire, croient en lui, croient en sa mission. Moi, j'ai connu personnellement ici Philippe Rossillon.
Oui, oui.
C'en est un, mais il y en avait d'autres aussi. Alors, tous ces gens-là sont venus. Moi, je les ai rencontrés ici au Québec en 62 ou 63.
Ouais.
Bon, ben ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent ici? Ben ils ramassent des livres, et ils regardent les journaux, et ils font des analyses, des synthèses, des rapports, comme on dit, aux plus hautes autorités françaises, et De Gaulle entend ça.
Ouais.
Entend, le maire, le garçon qui avait été maire, c'est pas n'importe qui là,
ouais.
C'est pas un petit, un élément secondaire, oui.
Ouais.
Il est devenu maire en plus de ça.
Mm-hmm.
Il dit, ah oui, vive la journée du Québec libre, etc. La voie de l'indépendance économique et politique. Et puis il dit, ah oui, monsieur Johnson. Et puis entre-temps, Johnson va devenir premier ministre en 1966. Puis il dit, ah oui, dans son journal, il parle de son journal comme étant un journal libre pour un pays libre, un Québec libre.
Ouais.
Alors, eh ben, ils sont en train de me dire, ben voilà, c'est le discours qu'il faut tenir.
Mais
il vient ici pour nous aider, comme il dit, pour nous donner un coup de pouce, il reprend notre vocabulaire et il nous le renvoie, en quelque sorte. Il n'a rien inventé.
Ouais. Guy Boutier, le 24 juillet, il dit ça. Alors, il y en a qui ne sont pas contents, dont le premier ministre Pearson. Et un de ses ministres qui s'appelait par hasard Pierre-Elliott Trudeau et un autre Jean Chrétien, pourrais-tu nous expliquer un peu, Pearson, vraiment il y a eu maille à partir avec De Gaulle, mais pourrais-tu décrire un peu la réaction du fédéral, parce que si je ne me trompe pas, le général De Gaulle a quitté illico. Montréal. Pourriez-vous donner un portrait de comment le Canada a réagi à ça?
Bon, De Gaulle est arrivé ici à Québec.
Mm-hmm.
D'abord à Québec. Normalement, il aurait dû commencer son voyage par Ottawa, mais il s'est arrangé pour commencer par Québec de la façon la plus simple, c'est-à-dire plutôt que de prendre l'avion qui l'aurait amené à Ottawa, il a pris un bateau de guerre. Mm-hmm. Qu'il l'a déposé à Lens-au-Foulon à Québec. Il a commencé son séjour parmi nous, ses retrouvailles avec nous par Québec. Et tout au long de son séjour à Québec et puis ensuite le long du chemin du roi, il a parlé de la France, mais il a surtout parlé du Québec.
Mmh.
Et il a surtout parlé du Québec comme étant d'un jeune pays dynamique qui voulait prendre en main ses destinées économiques, mais ses destinées dans tous les domaines.
Mmh.
Et je suis sûr, moi, que les fédéralistes, le gouvernement fédéral en tête, suivaient ça de très près.
Mm-hmm.
D'abord, il y avait déjà eu des petits accrochages, mais plus discrets, entre Pearson et puis De Gaulle, en 1964, je crois, c'était.
Mm-hmm.
Et il voyait bien que De Gaulle était en train de faire partager le message des Québécois. Alors, au fond, c'est pas son message à lui. Il a pris les mots qui avait cours dans le discours politique d'un bon
Québec,
nombre de personnes au Québec. Il a pris les mots et les concepts qui étaient dans les cœurs d'une grande majorité de Québécois, le million de Canadiens français, le million de Québécois qui l'ont vu, qui l'ont entendu et qui l'ont applaudi tout au long de son séjour de Québec à Repentigny puis à Montréal. 500 000 personnes sur l'île de Montréal ont accueilli le général de Gaulle. Sa voiture ne pouvait plus avancer rue Sherbrooke tellement il y avait de monde.
Ouais.
Bon, et il sentait bien qu'il allait y avoir quelque chose. C'est pour ça que, bon, petite anecdote autour du microphone, Drapeau avait compris ça. Il voulait pas avoir d'histoire avec le fédéral parce qu'il avait besoin du fédéral pour organiser ses Jeux Olympiques.
Mm-hmm.
Et puis il a fait enlever le micro pour que De Gaulle ne puisse pas parler à la foule.
Ouais.
Mais finalement, il y a eu un micro, bon, je ne sais pas les détails, et puis là, il a lancé son Vive le Québec libre. Et puis là, les fédéraux ont compris, bon, ben, dit, finalement, il a fait ce qu'on craignait qu'il fasse, il faut qu'on réagisse, et il a dit, c'est inadmissible, personne n'a fait un discours, et ça vaut la peine de le réentendre, on peut les entendre facilement, mm-hmm. de voir la difficulté qu'il a, lui, premier ministre d'un pays à deux langues officielles, la difficulté qu'il a à s'exprimer dans l'une de ces deux langues officielles, c'est-à-dire le français. Et il dit, ben, c'est inadmissible. Alors De Gaulle dit, bon, ben, je n'accepte pas votre jugement, et puis je rentre chez moi. Mmh. Il n'est pas allé à Ottawa. Il devait aller à Ottawa. On sait qu'il avait préparé un discours pour Ottawa, mmh. et un discours qui allait exactement dans le même sens. Ça, j'ai mon collègue et ami Denis Monnier, que tu connais, est allé faire des recherches à Paris, pas l'hiver dernier. Il a trouvé le texte du discours que De Gaulle devait prononcer. Mm-hmm. Et ce texte, il dit, ben, est conforme, parce qu'on dit toujours, c'est classique ici au Québec, on dit quelque chose en français, aux Canadiens français, puis on dit autre chose et son contraire en anglais aux Anglais. Mm-hmm. Mais non, De Gaulle était très précis sur le thème de, il faut que ce pays trouve les moyens politiques de défendre et de promouvoir sa personne, sa personnalité, et d'être présent sur la scène mondiale. Mmh. Alors, évidemment, personne n'a pas accepté, et De Gaulle est rentré chez lui deux jours après.
Oui.
Vive le Québec libre, c'était un lundi soir, puis il est parti le mercredi midi.
Ouais.
Après avoir entendu Drapeau, il avait été invité par Drapeau à manger, et c'est là où Drapeau, dans un discours très, très compliqué, on sentait qu'il n'était pas bien dans sa peau. Et pourquoi il n'était pas bien dans sa peau? Parce qu'il devait prendre la position du gars qui avait l'air de défendre le fédéral devant De Gaulle, alors qu'il savait très bien que De Gaulle savait que lui-même avait dit « Vive le Québec libre » en 59.
Ça,
il était pris dans une contradiction, là, Drapeau.
Ouais,
d'autant plus que Drapeau et De Gaulle se connaissaient.
Ouais.
Au moins deux fois, Drapeau est allé manger en privé à l'Élysée, invité par De Gaulle.
Ouais, ouais.
Une fois avant le voyage, c'était, je ne sais plus quoi, là, enfin, 6 mois avant, je ne me rappelle plus. Et tenez-vous bien, quelques mois après, le Vive le Québec libre, c'est en juillet 67. Mm-hmm. Eh bien, au début décembre, je crois que c'est le 5 décembre 67, Drapeau va manger avec le général De Gaulle.
Guy Boutier, il nous reste à peu près 15 secondes. En un mot, qu'est-ce qu'on retient de De Gaulle 50 ans plus tard?
Que De Gaulle, De Gaulle n'est pas une partie de notre passé, mais qu'il peut être et qu'il doit être une partie de notre avenir.
Wow, c'est bon. Guy Boutier, ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, aussi professeur honoraire de l'Université de Montréal et auteur d'un formidable article dans l'Action nationale, le numéro de juin et juillet. Je vous invite tous à vous procurer ce numéro et ce dossier sur De Gaulle. Merci beaucoup de cette entrevue. On aurait pu en parler encore davantage.
Oui, merci Robin, et merci et salut à ton public.
OK, merci beaucoup.